Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka Ohanou, et bienvenue dans cette 15e émission.
Édition 2023.
Dans les trois dernières émissions, nous avons essayé de comprendre l'importance du chef Hakaiki et son rôle central dans la gestion du tapu. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les deux autres manifestations de son pouvoir mana, l'organisation des fêtes Koika et la gestion de la religion ancienne dont le point d'orgue était le sacrifice de victimes humaines, Heaka. Le sujet est si dense qu'il nous faudra encore deux émissions pour en faire le tour.
Mais soyez patients et attentifs, car cela vaut vraiment le coup.
Après la gestion du tapu, l'organisation des fêtes Koika et des festins Mao représentait la deuxième manifestation du mana du chef. Écoutons d'abord Greg Denning nous donner son avis sur le rôle des Koika à la page 247 de ses réflexions. La fête Koika était une métaphore, une image, un symbole qui délimitait l'espace. La célébration d'une fête, en effet, avait une signification autrement plus étendue que la consommation de la chair des victimes. De la naissance à la mort et à la vie dans l'au-delà, chacun des moments majeurs de la vie du Hakaiki s'exprimait par une fête. Lorsqu'il venait au monde et recevait son nom,
lors de la cérémonie de super-incision de son prépuce,
lors de ses fiançailles, de son premier tatouage, de son mariage, de la naissance de son premier-né, de la puberté de sa fille, de ses victoires à la guerre, d'une bonne pêche, de sa mort et des anniversaires de sa mort, tous ces moments de la vie du Hakaiki qui formaient le tissu de son existence étaient célébrés par une fête. Les préparatifs tapu marquaient chacune des koika. Il arrivait que le tapu durât pendant des années. Alors on engrangeait les provisions, on préparait le tapa, on collectionnait plumes et coquillages, on tressait des cordages, on répétait chants et danses. Des invités des autres vallées ou des autres îles venaient à la fête, qui pouvait se prolonger pendant des jours et des semaines. Et ainsi, par l'hospitalité accordée, ils prenaient conscience de la grandeur du Hakaiki et de son clan. Dans le monde des Enata, où la division en groupes sociaux spécifiques était poussée à l'extrême, il n'y avait guère de moment dans l'année où un événement important de l'existence du Hakaiki n'était pas célébré. Mais les festins Mao étaient encore plus fréquents. Chaque instant de la vie en société, la fabrication d'une pirogue, le tissage d'un filet, les préparatifs de guerre, signifiaient une participation de personnes tapu, se partageant des aliments tapu. Le tohua, lieu des danses et des festivités, était le point focal de chacune des vallées. Et il y en avait plusieurs par vallée selon les clans. Le tohua avait également son point focal, qui était le pai pai tapu, ou le hakaiki, et ses autres tapus s'asseyaient pour festoyer. Il y avait aussi d'autres espaces réservés à des koika plus simples, plus choisis. Fêtes koika, festins mao et victimes humaines heaka étaient des célébrations typiques, symboles de la vie des enata. Les rites accompagnant ces célébrations étaient des métaphores, des images, des symboles, traduisant en paroles et en actions comment l'enata percevait son chef, point focal où s'amalgamait le temps et l'espace. Les symboles du rituel n'étaient que des gestes, mettant en relief le véritable centre de leur société, le chef. Venons-en maintenant au sujet toujours brûlant de la troisième manifestation du mana du chef Hakaiki, à savoir les sacrifices de victimes humaines, Heaka, et l'anthropophagie. Aux îles Marquises, en Polynésie et dans le reste du monde, les mots victimes humaines et cannibalisme réveillent en beaucoup de gens des fantasmes d'un autre temps, illustrés d'images distordues et amplifiées par une méconnaissance générale du sujet. Quand la mort tragique d'un touriste, dans des circonstances troubles, vient s'étaler dans la presse internationale, la frénésie s'empare de l'esprit des ignorants que le caractère sacré d'actes aussi violents n'avait jamais effleuré. Dans l'émission traitant du tapu, protégeant le corps humain, nous avions dit que si les personnes Kikino n'étaient pas tapu par nature, leur corps méritait le même respect que celui des gens tapu. C'est ce respect du corps humain qui faisait dire à de nombreux visiteurs étrangers qu'en temps normal, on constatait rarement de querelles violentes entre enanes. Seules des circonstances exceptionnelles pouvaient donc autoriser un prêtre Taoua à outrepasser ce respect pour le corps humain et à le réclamer comme victime d'un sacrifice. Car ce n'était pas par cruauté inutile que ce corps humain était mis à mort. Par le biais du sacrifice, on le sacralisait, afin qu'il soit digne de rejoindre les dieux et tours, eux aussi sacrés. Car c'est bien de sacré et de religion dont il s'agit, ou plutôt dont il s'agissait. Comme nous allons le voir plus loin, la mort violente et les rites qui l'entouraient transformaient ces victimes profanes en offrandes sacrées. Quant au repas cannibale, ne pouvaient y participer que les personnes tapu, aux origines sacrées par leurs ancêtres devenus dieux, en des endroits dont l'isolement amplifiait encore la dimension sacrée. Nous venons de voir que fêtes et sacrifices exprimaient la double dimension sacrée et profane de presque toutes les activités sociales des Enata. L'intronisation et la promotion des dieux étaient des activités religieuses très importantes, mais dans leurs cérémonies de vénération et d'offrandes sacrificielles, l'attention des Enata ne remontait guère au-delà des Hakaiki récemment divinisés. Les défunts des dernières dates remplaçaient les morts anciens dans la vénération. Des Taoua ou des Hakaiki vivants pouvaient aussi être reconnus Etuua, dieu. Cela signifie que les sacrifices s'adressaient plutôt aux ancêtres divinisés Etuua récemment, dont le souvenir était encore présent. Peut-être les dieux les plus anciens paraissaient-ils trop éloignés des humains pour les comprendre. Le sacrifice des victimes était une sorte de sacrement qui les divinisait. Pour ceux qui avaient déjà acquis la divinité, le sacrifice les confirmait dans ce rang et exprimait leur grandeur. Pour les derniers vivants dans la généalogie des Hakaiki et pour les gens attachés à ces généalogies par le tapu, les sacrifices proclamaient la force de leur Etuua et de sa descendance. L'offrande des victimes, de même que la présence constante des morts, devenait une mesure du temps et constituait un lien entre le passé et le présent.
Oh,
Écoutons maintenant quelques avis sur les sacrifices humains. Ces avis sont donnés par soit des gens qui ont vécu aux Marquises il y a longtemps, soit par des gens qui ont étudié les journaux de ceux qui sont restés aux Marquises. Le premier commentaire est donné par William Pascoe Crook, le jeune pasteur qui nous a raconté comment les tribus de Tahuata et du sud de
Iwao
ne cessaient de se harceler les unes les autres afin de récupérer des victimes humaines et de leur faire subir les mauvais traitements et les sacrifices dont nous avons déjà parlé. Donc cela, on n'en reparle pas.
Deux années plus tard, en juin 1801, alors qu'il est invité à une grande fête Kohika à Aakaapa au nord de Nukuhiva, l'anglais Edward Roberts raconte comment, devant lui, un grand prêtre Tau'a brise le crâne d'une femme déjà morte, puis en sort le cerveau et le mange tout cru. Roberts quitte alors la scène de dégoût. Il est rejoint par son ami le chef. « Ce sont nos aïeux qui nous ont enseigné à manger nos ennemis jurés », explique-t-il. « Mais nous sommes nombreux aussi à ne pas manger de chair humaine. »
À la page 69 de son journal, le commodore américain Porter nous explique ce qu'il a constaté. En 1813, après enquête, il ne trouve aucune personne ayant vu des Enana manger de la chair humaine. Kiatonu, il lui dit que personne de sa famille n'a jamais mangé de chair humaine, mais il reconnaît que la coutume de manger ses ennemis est pratiquée. Dans une prochaine émission, nous verrons que Porter dit qu'il a souvent été témoin d'offrandes de cadavres en sacrifice aux divinités et qu'elles ne peuvent être prises parmi les Enana tatoués. Avec ce témoignage, on constate que dans le passé, les Enana restaient discrets sur le sujet des sacrifices humains et le cannibalisme. De nos jours, au contraire, face à des étrangers impressionnables, certains marquisiens n'hésitent pas à dire que tel ou tel de leurs ancêtres était cannibale, et peut-être même le dernier des cannibales. Désormais, on assume le passé du peuple Enana. De nombreuses autres sources exposent clairement la réalité du cannibalisme ancestral. À la page 69 de ses lettres sur les îles Marquises, le père Mathias Gracia indique même un dicton y faisant référence. Les Enana ne mangent pas ordinairement leurs victimes crues, bien qu'ils aient un proverbe qui dit « Haute ete kuhane a oe pohu emae » quand l'esprit est mangé cru, il ne revient plus. Et le père Gracia ajoute « Nous en avons vu un seul exemple ». C'était le 24 octobre 1839 chez les Hapa'a, où il précise que la victime avait été capturée sur la plage et comme il n'avait pas le temps de la cuire pour une cérémonie qui était en cours, ils l'ont mangée telle qu'elle. Enfin, Craig Denning nous donne d'autres détails. Quelques-unes seulement des victimes sacrificielles étaient consommées, mais jamais les Heaka offertes en sacrifice aux dieux. Ces dernières étaient portées sur le Me'ai et suspendues à quelques supports ou jetées dans une fosse Tainui. On ne peut même pas affirmer avec certitude que les Enata faisaient cuire leurs victimes sacrificielles. Il est plus vraisemblable qu'on passait la peau à la flamme d'une torche de noix de Bankoul. Les différentes parties du corps étaient réservées à un petit nombre de personnages comme le Tawa, le Hakaiki et d'autres individus Tapu. Les Enata aimaient bien les aliments en putréfaction. Ils mangeaient du requin et de la raie plusieurs jours après qu'ils aient été pêchés. les laissant sur la plage à mûrir. Les cadavres en décomposition ne leur répugnaient pas non plus, ni l'odeur des morts exposés à sécher dans le village ou en bord de mer. Il n'y a donc aucune raison de penser que l'état de putréfaction de leurs victimes les ait indisposés. Comment calculait-on le nombre de victimes à sacrifier? La lecture des documents dont nous disposons nous propose quatre exemples. D'abord, deux victimes. En août 1845, à Tahuata, alors qu'il est déjà catéchumène et attend son baptême, le chef Maheono mange la chair d'un enfant de 3 ans et encourage les autres Enana à l'imiter. Peu avant, il avait organisé des koika à Motopu et fait sacrifier 2 victimes à l'occasion des premières matières fécales du fils premier-né d'un chef. Pour les premières matières fécales, pour le premier caca d'un nouveau-né, 2 victimes. Doublons les victimes maintenant, 4 victimes. Au cours de la cérémonie nommée Hamihune, le chef remettait à son fils premier-né son pain de tapa de banyan, le Hamihiapo. Dominique Pechberti nous dit qu'on étranglait 4 victimes à cette occasion, dont nous reparlerons un peu plus loin. Augmentons encore le barème, 6 victimes.
En janvier 1845, à la mort du chef Heato de Wapo,
les Tahua ont besoin de 6 victimes non tatouées pour le sacrifice humain. Ça, ce sont les missionnaires qui nous le disent. Et enfin, 8 victimes, pourquoi? Toujours à Wapo, au cours de l'année 1843, une baleine s'échoue à Hakahao. La grande prêtresse, mère de Heato, déclare que c'est l'âme errante d'un Tahua, nécessitant le sacrifice de 8 victimes. Heato veut les remplacer par des tortues, mais finalement, on plante 8 bananiers sur la plage, sur lesquels on attache et on met à mort 8 membres d'une tribu voisine. Chers amis, c'est avec ce décompte macabre que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle nous nous pencherons sur les différents rituels de mise à mort selon la fonction des victimes sacrifiées. Et à bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Te'eo et sur mon site internet te'eo.com. Et merci au Kave'e Moetai pour la chanson Ka'oha Tupuna, un salut aux ancêtres qui invite l'interlocuteur à monter sur le Pai Pai Tapu, la terrasse pavée sacrée de la famille, afin d'y retrouver la présence des ancêtres, les Tupuna. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf, kopo K-O-P-O, ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.